Maïs, la chaîne orientale. Je réfute totalement cette question.
Moi, c'est tout ce que vous m'avez dit au passé en gras. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de l'esprit est en trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine sur la fréquence de la paix. Le gouvernement congolais a appelé à réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or. C'est l'une des recommandations de la conférence nationale sur la problématique de l'exploitation artisanale de l'or, notamment dans les grands lacs organisés à Kinshasa le 4 octobre dernier, dans l'optique de la certification de l'or artisanal pour un commerce licite en RDC. Quel regard portez-vous sur cette recommandation? Vous pouvez participer à cette émission en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315. Heureuse de toute l'équipe de production de ce programme pour vous tenir compagnie. Alain Goy est à la technique, Faisa Julie Bongonda à la réalisation. Pierre Ndiembo coordonne et présente ce programme sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierre Ndiembo.
Nous avons dans ce studio Alexis Mikaji, qui est le DG de CEC. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Voilà, on va revenir à vous d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de dire d'abord merci à tous les auditeurs qui ont posté leurs messages sur notre page Facebook par rapport à cette thématique. Théodore, vous nous avez appelé pour réagir par rapport à cette question. Bonjour Théodore.
Bonjour monsieur.
Oui Théodore, vous avez un point de vue à émettre par rapport à cette recommandation de la Conférence nationale sur la problématique de l'exploitation artisanale qui en fait demande, plaide pour que le gouvernement congolais puisse réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or.
Merci beaucoup. Je crois que notre gouvernement a bien pensé à réduire cette taxe à 1%. C'est une bonne chose. Mais mon souci était que, vous savez, ici chez nous, à la République démocratique du Congo, toutes les sociétés, par exemple, les grandes sociétés qui pouvaient produire de l'or, ne se retrouvent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des sociétés privées, ou bien des mining, des consorts, des gens privés qui sont en train de travailler sur ce secteur. Quand on réduit les taxes, c'est pour avantager surtout ceux qui travaillent dans le privé, dans l'économie informelle. Dans l'économie informelle, c'est très difficile pour faire un contrôle. Savoir combien on a exporté, d'abord combien on a produit, et on a exporté combien. Et quand on exporte aussi, c'est aussi pour attendre d'acheter des produits finis, acheter des matières premières, et qu'on sort. Tout cela doit aider. Mais quand aujourd'hui, par exemple, les sociétés privées, où ça manque, de gouvernance, l'effet de gouvernance qui est douteuse. Nous devons mettre en tête que si la production en minerai, c'est d'abord l'exploitation des matières brutes, comme nous n'avons pas de machines à transformation, et par la suite, et on manque des matières premières et des produits finis. Alors le gouvernement doit savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, nous allons dans la case du départ. Parce que on n'arrivera pas toujours à faire quelque chose de réel, de visibilité dans les comptes courants.
Alors, donc, Théodore, c'est vrai, vous plaidez également comme les participants à ces assises pour, au fait, le renforcement du contrôle du côté du gouvernement, mais aussi, en tout cas, un encadrement sérieux. Il faudrait que les autorités congolaises puissent améliorer un peu la qualité de l'encadrement des orpailleurs qui, parfois, au fait, arrivent à exploiter de l'or artisanal et à vendre à l'insu des autorités, voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, si jamais cette voie est suivie, ça pourrait donner des résultats. Merci beaucoup, Théodore. Mathieu, vous êtes à Canada. Bonjour, Mathieu.
Vous m'accordez la parole, monsieur Gérard. Pour cette écoute, Mathieu, j'interviens par ces canons. Moi, j'ai toujours considéré les décisions et les lois qui sont prises souvent par notre gouvernement dans tous les domaines du secteur de la vie voile. Mais souvent, nous remarquons qu'ils ne sont pas bien exécutés, pas même suivis. En ce qui concerne les problèmes de restriction de cet acte, moi je les considère bonnes. Mais pour les taxes de vente, nous avons le code minier de bien visé. Nous avons la loi numéro 007/202 du 11 juillet 2002, sans oublier l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013.
Mmh.
Nous tous, alors, dans le même sens pour régionaliser et mettre l'ordre dans ce secteur, mais nous remarquons toutefois qu'il y a des cas d'exploitation et importation anarchique de nos minières vers d'autres pays qui continuent d'être enregistrés. Des fraudes fiscaux, tout ça pour profiter, il y a manque de suivi et de contrôle, sans oublier la corruption qui bat son plein, qui est devenue mode de gestion dans notre pays. Nous le déplorons amèrement. Alors, je félicite le gouvernement et je le demande de poursuivre à bien améliorer les décisions qu'il prenne souvent dans ce pays. Merci, Gérard.
Merci beaucoup, professeur Mathieu, d'avoir appelé du Kananga. Nous l'avons dit, nous avons dans ce studio notre invité, Alexis Mikazi, qui est DG de CSC. Bonjour, Alexis.
Bonjour.
Voilà, alors vous avez suivi les deux intervenants tout à l'heure, avant que nous puissions relancer avec d'autres questions. Quelle est d'abord la réaction à entendre la population réfléchir de cette façon-là?
Bien, merci. Je crois que les problèmes de l'exploitation de l'or est parmi les questions qui préoccupent au plus haut point le gouvernement et particulièrement le ministère des Mines, puisque plus d'une fois, des mesures ont été prises pour encadrer ce secteur afin qu'il soit autant porteur que le potentiel l'existe. La problématique de la réduction des taxes est une question qui a été prise en compte il y a plusieurs années. Je crois qu'en 2008, les taxes, rien que pour l'agrément des comptoirs d'or et donc redevances et cautions, s'est relevé à $75,000.
$75,000.
Et le ministre a pris des mesures, avec bien sûr son collègue des finances, pour les réduire à $7,500. Donc, vous voyez qu'il y a déjà, depuis 2008, j'insiste, un effort qui a été fait dans ce sens. La tendance est de toujours demander à ce qu'il y ait davantage de réductions. Mais la population devrait également comprendre que lorsque on est un pays producteur, on ne peut pas accepter que l'exploitation s'efface à zéro taxe. Ce n'est pas possible parce que l'État doit enregistrer des recettes dans le secteur pour le développement du pays. Alors, s'il est vrai qu'il y a des problèmes de taxes, mais cela n'explique pas toute la problématique de la fraude, de l'exploitation et de la commercialisation dans le secteur orifère. Les experts du ministère des Mines ont beaucoup réfléchi sur la question, bien sûr avec les collègues des autres secteurs, parce que la question de la fraude n'est pas une question qui est limitée à un secteur, c'est une question qui préoccupe tous les secteurs du gouvernement. Et il s'est avéré que c'est beaucoup plus que la simple question des taux des taxes. Parce que si nous pourrions avoir des auditeurs de Bounia, des Haro, etc., et ceux qui ont suffisamment d'informations dans les secteurs, ils vous diront que le prix d'achat ou le prix de vente, c'est selon la position dans laquelle on se retrouve, de l'or au pays, à certains endroits, est supérieur au fixing sur le plan international. Alors, comment est-ce possible que celui qui achète ici au pays et qui a des coûts après, qui a des charges à prendre, à supporter, peut acheter à un prix supérieur aux places où il est censé aller vendre. Voilà les vraies questions sur lesquelles le ministère s'est posé.
Voilà. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ces assises. Est-ce qu'on peut d'abord nous faire une idée sur le nombre d'orpailleurs aujourd'hui? Parce que la plus grande question, c'est l'exploitation artisanale de l'or. Aujourd'hui, avec la question sur l'identification d'abord des orpailleurs, est-ce qu'ils sont connus ou bien ils opèrent en toute clandestinité?
Bien,
donc on peut dire, on relance encore les débats sur ces scams qui est censé en fait encadrer les empailleurs, ceux qui exploitent artisanalement.
Oui, merci. Dire que l'on connaît le nombre exact des empailleurs serait, je crois, une prétention excessive. Non, nous ne connaissons pas le nombre exact des empailleurs.
Mais combien sont identifiés?
Alors, voilà. En tant que...
Parce que même si on ne sait pas quantifier, mais au moins, puisque c'est là qu'ils se sont déjà prononcés.
Oui, en fait, je veux répondre à votre question de deux manières. Vous savez, normalement, si on parle, on doit parler identification, cela veut dire ceux qui détiennent une carte des creuseurs. Alors, ceux-là, malheureusement, moi, je ne suis pas, ce n'est pas dans mon secteur. C'est beaucoup plus mon collègue du CSCAM et la division des mines, donc en fait, au niveau national, à la direction des mines, qu'on peut avoir des précisions sur ces questions-là. Moi, je m'occupe plus de la certification, la traçabilité et voilà l'exploitation. Donc, je n'ai pas, mais au moins, il y a un programme qui est en cours, parce qu'en fait, c'est un travail permanent. Ce n'est pas parce que cette année on a eu 10 000 creuseurs que l'année prochaine on aura 10 000 creuseurs. En fait, les gens s'ajoutent. Tant que le secteur paraît porteur, il y a toujours des gens qui s'ajoutent. Et aussi, vous savez, nous sommes dans un pays où chaque jour on découvre des filons qui appellent des creuseurs.
Alors, je crois qu'on va aider quand même les auditeurs. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ces assises. On a exploré toutes les questions, toute la problématique de l'exploitation artisanale de l'or. Vous avez parlé de la traçabilité. À un certain moment, au niveau de notre pays, et c'est vrai, nous avons connu quand même des périodes très difficiles, des périodes de guerre, où il y a eu des empailleurs, des circonstances qui sont créées, qui ont en fait organisé un commerce que nous avons appelé illicite. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer dans quelle période le gouvernement congolais a réalisé un manque à gagner énorme en ce qui concerne le commerce illicite de l'or dans les transactions artisanales? Parce qu'on a connu plusieurs guerres, on sait que des gens en ont profité.
Bien, il suffit de voir le niveau de notre production. Avant 2008, on avait moins de 90 kilos exportés pour l'exploitation artisanale.
Avant 2008.
Avant 2008. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une petite croissance. Nous sommes au-delà de 270 kilos. Voilà. Mais ce n'est toujours rien par rapport au potentiel et par rapport à certaines études.
Donc on peut dire qu'il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour en fait contourner cette bande de des gens qui organisent des commerces illicites.
Tout à fait. Toutes les mesures qui ont été prises depuis et qui sont en train d'être prises produisent petit à petit des effets. Vous savez, lorsque les gens sont déjà installés dans la fraude, lorsqu'on a mis sur pied un système, il n'est pas facile de démonter les systèmes d'entrée. Alors, tous les travaux qui sont faits dans le cadre de la CIRG, l'OCDE, ont pour objectif, justement, de canaliser l'essentiel de la production dans les voies officielles. Et aujourd'hui, je pense que ce qui freine un tout petit peu, enfin, pas un tout petit peu, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est le processus de validation des sites. Dès lors que on aura validé l'essentiel des sites orifères, je suis convaincu que
la production.
Voilà, 081-893-15 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous parlons de cette problématique de l'exploitation artisanale de l'or. Aujourd'hui, c'est vrai, le pays a connu pas mal de problèmes et aussi un manque à gagner énorme en ce qui concerne l'exploitation artisanale de l'or, où des gens ont organisé parfois des commerces illicites pour sortir, exporter de l'or, et cela a coûté énormément pour notre pays. Alors, quel regard portez-vous sur cette recommandation qui veut que le gouvernement congolais puisse réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or, question de donner l'occasion de pouvoir booster, en tout cas, le niveau de la production de l'or. 081-890-63-15. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Cette histoire vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi, des nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les lancers sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Petite Histoire. Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Est-ce que vous pensez, comme tous les autres observateurs, qu'au cas où le gouvernement arrivait à réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or, cela pourrait booster la production de cette matière dans notre pays? Et je crois que nous allons faire le débat avec vous, chers auditeurs, mais permettez-nous de poser quand même une question de précision à notre invité avant de repasser de l'autre côté des standards. Professeur Robert est en ligne, mais c'est Alexis Vicandi. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des recommandations. Parmi tant d'autres, c'est cette, nous avons venait de parler de la réduction à 1%, mais est-ce qu'on peut connaître quand même d'autres recommandations qui sont sorties de ces assises?
Ah, oui, merci. Parmi les recommandations, il y a notamment la question de la validation des sites, que je venais de dire ici, et aussi la mise sur pied d'un système de traçabilité propre au secteur EFR.
Alors, on a parlé également
Il y a l'organisation de creuseurs en coopérative. Vous savez, lorsque on se retrouve dans un cadre formalisé, ça permet également les contrôles. Lorsque chacun exploite dans son coin et fait du produit de son exploitation ce qu'il veut, le contrôle devient assez problématique.
Alors parlons de l'assainissement du secteur, c'est pratiquement une question transversale et cela a été abordé aussi au cours de ces assises. Comment ça va se passer concrètement?
Bon, toutes ces questions sont liées justement à l'assainissement du secteur. Parce qu'aujourd'hui, parmi les plaintes, c'est que tout le monde peut venir dans une carrière et commencer à exploiter. Il y a également des conflits entre les creuseurs et les titulaires de droits miniers, des permis d'exploitation. Donc, il faut, parmi les recommandations tendent donc à mettre de l'ordre, à trouver un modus vivendi entre les entreprises titulaires des concessions, des périmètres miniers et les creuseurs, et voir qu'est-ce qui doit être fait. La création des zones d'exploitation artisanale dans ce secteur-là, tout ça concourt justement dans
l'assainissement. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Nous avons le professeur Robert qui est à Kinshasa à l'Unikin. Bonjour, prof. Voilà, professeur, vous avez suivi tout à l'heure notre invité. Nous parlons donc par rapport à cette thématique. Le gouvernement congolais a appelé à réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or. C'est l'une des recommandations de la conférence nationale sur la problématique de l'exploitation artisanale de l'or, notamment dans les Grands Lacs, organisée à Kinshasa d'ailleurs le 4 novembre dernier, dans l'optique de la certification de l'or artisanal pour un commerce licite en RDC. Alors, vous portez quel regard par rapport à cette recommandation?
Bon, c'est une bonne recommandation dans la mesure où on veut quand même aider les petits exploitants artisanaux pour lui permettre de travailler et de vivre, parce que il y a un danger qu'on constate souvent, c'est que lorsqu'une entreprise minière s'installe, le milieu environnant est totalement appauvri davantage. Et même si on leur conseille de construire des habitations pour les travailleurs et mettre aussi un système d'assainissement du milieu en créant des écoles et tout ce que vous voulez. Donc moi je pense que le petit exploitant lui-même risque de se trouver constamment dépaysé et appauvri davantage.
Donc la population va s'appauvrir.
Si l'État intervient pour voir quels sont les groupes, donc les groupes des artisans qui travaillent et qui se regroupent et qui sont en communauté ou en mutualité, et ceux-là peuvent payer à l'État une patente.
Une patente, oui.
Cette patente permet à l'État.
Parce que vous estimez qu'il s'agit là d'un petit commerce.
C'est rare formel, ce genre de groupe. Parce que l'État perd beaucoup dans l'informel. Alors, maintenant, si on réussit à les regrouper de cette manière-là, l'État ne perdra pas, la population non plus ne perdra pas. C'est un avantage. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans les environs de Mbujimayi, les exploitants artisanaux de l'or, qu'est-ce qu'ils ont pratiquement? Ce sont les mêmes pauvres. Ils sont dans des cabanes. Ils n'arrivent vraiment pas à s'en sortir.
Donc, si je comprends bien, professeur, vous proposez que, en tout cas, ces employeurs puissent ne payer auprès du gouvernement qu'une certaine pantalon, parce que vous estimez qu'il s'agit là d'un petit commerce. C'est une question de formaliser le.
L'État, c'est de rendre formel les exploitants agricoles. En les regroupant dans des coopératives, par exemple, ou dans des mutualités. Alors, le responsable, c'est une sorte de syndicat. Alors, on fait canaliser ce groupe pour que l'État puisse faire payer des patentes à toutes ces personnes qui sont bien identifiées.
Oui, restez en ligne, pauvre Robert. On va quand même écouter notre invité, parce que c'est une préoccupation directe pour qu'on ne puisse pas perdre les idées. Monsieur Alexis, par rapport à la proposition de professeur Robert.
Bien, voilà. J'ai parlé tout à l'heure de l'option qui a été prise par le ministère de regrouper les creuseurs en coopérative. Donc, c'est une option qui a déjà été levée et qui est en cours d'exécution. La question de patente, bon, non. Vous savez, les creuseurs payent pour leur carte d'exploitant artisanal. Chacun a sa carte et c'est ça la seule obligation qu'ils ont vis-à-vis de l'État. Les taxes dont on parle ici, ce n'est pas au niveau de creuseur, c'est au niveau des comptoirs. Lorsque ceux-ci doivent exporter, c'est-à-dire lorsque le produit minier doit sortir du pays, c'est en ces moments-là que la taxe intervient. Alors donc, ce que le professeur dit n'est pas loin de ce qui est déjà en train d'être exécuté. Mais je pense que la question de la patente est déjà prise en compte par le coût de la carte des creuseurs qui est ceci.
Voilà, on va prendre Joël qui est à Maragui. Je ne sais pas, professeur Robert, vous êtes satisfait quand même de votre préoccupation par rapport
là, bon, si vous estimez que je puisse rester, vous pourrez toujours.
Voilà, non, parce que par rapport à votre préoccupation tout à l'heure.
Un produit dans le cadre de l'économie formelle.
Oui.
Qui ne permet pas l'économie informelle de perdre à l'État
beaucoup d'argent.
Alors que si on formalise, l'État va gagner énormément et il y a moyen de
Donc pour vous estimez qu'il y a encore d'autres comptoirs qui ne sont pas formels ou qui fonctionnent dans l'informalité.
Oui, il y a toujours des gens qui viennent
qui évoluent au contrôle de l'État. Mais voilà, on verra peut-être avec notre invité si il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre à ceux qui aient de moins en moins manque à gagner pour l'État congolais. Joël, vous êtes à Magui. Bonjour, Joël.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, Joël.
Oui, JR. Je voudrais aborder cet angle de débat d'abord sur l'aspect taxe. Il est certain, vrai que à l'RDC, les taxes sont extrêmement élevées.
Élevées, oui.
Ce qui ne profite à rien aux exploitants artisanaux congolais, ce n'est pas seulement dans le cadre du secteur minier, c'est dans beaucoup de secteurs, du secteur agricole, dans beaucoup de secteurs. Alors, cela fait que les exploitants au risque artisanaux jouent à la malignité. Ça fait qu'à votre invité en train de parler des nombres de kilogrammes, la quantité que la RDC produit, moi personnellement, ça m'a fait rire parce que j'ai été à Mongwalu, là où on exploite de l'or, et j'ai vu ce qui se passe. J'ai été en Zambie, en territoire de Mahagi, là où il y a mon Afrika qui exploite. J'ai également été en territoire de Ouacha, et précisément à Durba, là où on trouve Kigali Gold. Et quand il dit qu'il y a donc la production qui était plus élevée à certains moments vers 2008 ou 2009, c'est dans les 270 kg, moi personnellement ça m'a fait rire parce que je trouve que maintenant que le gouvernement congolais a élevé les taxes, le gouvernement congolais est en train de perdre énormément.
Mm-hmm.
Je me rappelle, c'est pas plus que deux semaines, à Mahagi, il y avait de surprendre 3 kg, plus de 3 kg donc qui sont faits produisement. Et combien
de kilogrammes,
même ces artisans, oui, même ces artisans exploitants, donc les exploitants artisanaux, qui sont disséminés à travers les districts de l'Ituri, par-ci, par-là, combien il faut passer à Kampala par la voie frauduleuse? Donc, la question, c'est, la volonté est là pour les exploitants artisanaux, mais le fait qu'il y a beaucoup de taxes. Alors, il trouve que...
Oui, mais Joël, parce que vous êtes à Mahagi, nous savons que le CSC met quand même un contrôle sérieux dans le secteur, en tant que centre d'expertise et d'extraction des minéraux, je crois. Voilà, donc, est-ce qu'à votre niveau, vous avez remarqué, quel est le bilan que vous pouvez faire du travail, par exemple, des CSC sur place là-bas? Parce que nous savons que nos frontières sont très poreuses. Est-ce que CSC est représenté au niveau de Mahagi?
D'abord, c'est un service qui n'a même pas représenté le territoire de Mahagi. Nous sommes à la frontière. Il n'y a même pas cette histoire qui est représentée ici. S'il faut attendre de parler de cela, il faut se fixer que c'est peut-être à Bunia. Bunia, c'est le chef du district. Mongwalu, c'est déjà au-delà de Bunia. Déjà là, donc, cette histoire n'existe pas en territoire de Mahagi, ni en territoire d'Aru. C'est peut-être à Ouacha. Si ça existe à Ouacha, c'est dans la concession de Kibali Chiadoko, dans la clôture. Qui sait qu'est-ce qui se passe dehors? Donc, il y a une pratique.
Donc, il y a un problème déjà pour assurer la traçabilité. Merci beaucoup, Joël. Je crois que là, il s'agit aussi d'une préoccupation directe. Monsieur Alexis, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème sérieux pour vraiment faire le suivi de la traçabilité de l'or qui quitte la RDC pour l'extérieur. Que nous avons nos frontières qui sont très pauvres.
Voilà, je voudrais d'abord apporter des précisions hein, par rapport à ce que Joël a dit. Les chiffres que j'ai donnés, c'est les chiffres de l'exportation des produits artisanaux. Ce n'est pas industriel. Et je donne encore une précision ici que Mon Africa ne produit pas. Il ne doit pas confondre les travaux de construction des mines de recherche avec la production. Donc, en ce qui concerne la production industrielle, on est au-delà des 5 tonnes pour l'année passée, pratiquement 6 tonnes. Donc, c'est juste parce que je l'ai entendu dire qu'il y a Kibali et tout ça, les chiffres nous font rire. Non, non. Il doit savoir que nous avons présentement ici deux sociétés industrielles qui produisent. Il y a trois pratiquement. Il y a Twangiza, il y a Namoya et Kibali. Twangiza et Namoya sont des sociétés du groupe Banor. Donc, la production industrielle ne pose aucun problème. Ce qui fait objet de notre discussion, c'est la
préconisation
artisanale. Ça, c'est une chose. Alors, je lui dis aussi que à Arou, les CEC existent. Abouna lui-même l'a dit, à Isiro aussi, mais il ne doit pas confondre le CEC avec les autres services du ministère qui, eux, s'occupent de la gestion de l'exploitation. Le CEC ne gère pas l'exploitation, il gère en fait le processus de commercialisation de la terre. Donc, on n'est pas appelé à être dans des sites d'extraction. Autre chose, c'est que le CEC n'est pas non plus compté parmi les services admis à être aux frontières. Donc, il ne doit pas s'attendre à voir le CEC aux frontières, il ne doit pas non plus s'attendre à voir le CEC au lieu d'extraction. Je crois que c'est une précision.
Voilà, alors on va prendre Gérard Kabemba, qui est un des mandataires de Nîmes. Gérard Kabemba, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoint. Quel est votre point de vue?
Je veux dire de prime abord que c'est une avancée significative. La recommandation de ramener à 1% le taux à l'exportation. L'idéal serait de 0%. Et monsieur le directeur général du CEC, c'est pourquoi? Parce qu'avec certains pays frontaliers par lesquels transite notre or, ils sont pratiquement à un taux nul. Et donc, l'idéal, c'est 0%. Et si on peut l'atteindre dans un avenir très proche, je crois qu'en partie, on réglerait le problème de la fraude et éventuellement aussi de la traçabilité. Deuxièmement, laissez-moi vous dire que l'exploitation artisanale de n'importe quel minerai ne peut pas permettre la promotion ou le développement d'une communauté. Vous pouvez vous en rendre compte en visitant toutes ces contrées-là où il y a un boom d'exploitation artisanale, mais en réalité le développement n'a pas suivi. C'est un événement qui a été totalement sans rendez-vous. Donc personnellement, je plaide pour une industrialisation de tous les secteurs miniers et aussi du secteur de l'or. Et pour ce faire, pour moi, l'artisanat aujourd'hui doit être une période transitoire, mais bien quand même vrai. On se rappelle lorsque le secteur minier a périclité, on a laissé les populations à elles-mêmes et donc elles se sont mises à l'exploitation artisanale. Et donc, c'est une période transitoire qui a trop duré. Malheureusement, dans notre pays, la transition dure toujours. Et il faudrait aujourd'hui, à mon sens, que mon cabinet plaide pour l'organisation d'un grand forum sur l'artisanat minier pour que, une bonne fois pour toutes, qu'on dégage les pistes de sortie de cet artisanat pour aller vers l'industrialisation. Et donc, j'ai dit que la diminution du taux à l'export, on était à 4,5, on est allé à 2, je crois que maintenant on propose d'aller à 1,
et on
va à 0, et là pour régler aussi les problèmes de la traçabilité, parce que tout simplement, on n'aurait aucun intérêt à frauder, parce que effectivement, on ne doit pratiquement rien payer. Et l'État ne devrait pas se faire des soucis, parce que lorsqu'il aura réglé les problèmes de la traçabilité, et donc du taux zéro, le DGDDC sait que les comptoirs ont l'obligation de rapatrier, je crois, 40 ou 45% des ventes qu'ils auront effectuées à l'extérieur avec leur exportation. Donc il faudrait soutenir l'idée de la diminution du taux à 1%, et si on peut faire un petit effort jusqu'à 0%, l'État va se retrouver gagnant parce qu'il aura contrôlé effectivement tous les systèmes d'exploitation artisanale qui devraient se mener à un industriel. Deuxièmement,
il aura assuré de rendre
autour du fait de l'exportation et il aura aussi contrôlé pratiquement de tous les systèmes.
Merci beaucoup, Gérard. Vous plaidez pour l'industrialisation de tous les secteurs artisanaux et pourquoi pas le secteur, de tous les secteurs miniers, par contre, et particulièrement les secteurs artisanaux. Merci beaucoup, Gérard Kabemba. Nous rappelons que vous êtes maire de terre de Nîmes. Vous avez accepté donc de contribuer dans cette émission. Christian, vous êtes à Bouya. Bonjour, Christian.
Bonjour la radio Capi, bonjour l'invité, bonjour...
Est-ce que Christian, vous partagez l'avis de votre prédécesseur tout à l'heure qui parlait de l'industrialisation de tous les secteurs miniers?
Non, je ne partage pas la même chose parce que j'ai deux questions. J'ai une question que je vais poser à l'invité.
Avant de poser la question, Christian, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la recommandation de réduire à 1% la taxe à l'exportation de l'or? D'abord, votre point de vue.
réduire ou ajouter, c'est là n'a pas l'impact parce que où est la part de la population d'abord? Parce que si vous voyez ici, il y a des orpailleurs qui payent les taxes. On ne peut pas comprendre où c'est ici les orpailleurs payent les taxes au niveau de l'État. La population ne bénéficie à rien. Il n'y a même pas du courant. Il y a du courant peut-être demain ou le lendemain, mais où va cet argent? Parce que l'État perçoit cet argent. Oui, l'État perçoit cet argent. Et à plus de cela, si l'État dit que non, il est en train de faire payer les taxes, alors que dit l'État au sujet de ces trois Chinois qui étaient surpris avec le 3 kilos d'or? Donc ça en fait ça. Et puis, ma question était celle-ci. Ma question est de savoir qui est censé percevoir les taxes de l'État, parce que je sillonne un peu partout en Éthiopie, jusqu'à même au fin fond, jusqu'au lieu qu'on appelle Yeti. Là, je trouve qu'il y a le service ANR qui va voir même le petits artisanaux pour leur demander rien pour. Pour avoir l'accès à ce travail-là de créer de leur cordon.
Merci beaucoup, Christian. Vous avez évoqué le problème des trois Chinois qui voyagent avec les 3 kilos d'or. Et puis, votre préoccupation, c'est par rapport à qui a habilité à percevoir les taxes. Voilà. Donc, monsieur Alexis, c'est vrai, il y a eu beaucoup de préoccupations. Il y a Gérard qui a évoqué la question, en tout cas, épineuse, de l'industrialisation de tous les secteurs miniers, qui pourrait être la solution quand même idéale. Hein. Je crois que cette question a été aussi évoquée lors de la conférence nationale des mines, que cette conférence qui est organisée, en tout cas, tous les deux ans, je crois, ou chaque année.
Oui, merci beaucoup. Je pense que l'industrialisation, c'est l'option, c'est l'idéal. Mais l'artisanat minier, c'est une réalité. Hein, nous avons aujourd'hui, on estime à plus de 10 millions de creuseurs à travers le pays. Je crois que Gérard Kabimba, qui connaît très bien les secteurs, il sait qu'on ne peut pas du jour au lendemain se débarrasser de toute cette masse de gens comme ça. Alors, c'est justement pourquoi cette option de formalisation du secteur, pour répondre également au professeur qui en parlait tout à l'heure, a été prise. C'est-à-dire que si on commence aujourd'hui avec la coopérative, l'objectif, c'est de ramener ces coopératives vers les petites mines. C'est-à-dire on va utiliser des moyens pas aussi importants que les entreprises minières ordinaires utilisent, mais on va passer de cette creuse qu'on fait avec des pioches en utilisant des petites machines. Donc c'est ça l'option, ça permet de réduire l'effort manuel et aussi de contrôler les personnes qui s'affairent et également donner de la plus-value, de la valeur ajoutée au produit que l'exploitation aura. Donc, l'artisanat n'est pas l'option du gouvernement pour rencontrer ce que Gérard Kabimba a dit. L'option du gouvernement, c'est l'industrialisation.
Mais tout nul, est-ce qu'on peut y arriver? Parce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est vraiment pas possible.
Non, je pense que sur ce point-là,
comme d'autres pays qui sont tout autour de nous.
Non, je ne pense pas. Les autres pays qui sont autour de nous, c'est une option primordiale, prioritaire, parce que l'essentiel de ces pays-là ne sont pas producteurs. Ça, c'est une bonne chose, parce que lorsqu'on a des fours, on voudrait bien que ces fours tournent, que les produits, quel que soit le coin où les produits peuvent venir, mais l'essentiel est que ces fours tournent. Lorsque les fours tournent sur place, évidemment, il n'y a pas de taxes, mais il y a d'autres. Il y a les impôts qui sont payés et l'économie du pays se porte bien. Je crois que il y a une question, par contre, qui peut rencontrer ce que mon ami Gérard Kabimba a dit tout à l'heure, c'est l'harmonisation des législations. Parce que il y a comme un jeu qui s'est fait dans la région, rien à faire, quel que soit le minerai qu'on citerait, la RDC est toujours le premier pays producteur dans le secteur. Je ne vois pas, je suis à l'est, je ne suis pas détendu. Alors là, il se fait que tout autour, nos voisins, je n'en citerai personne, ont des petites unités qui permettent de transformer ce qui vient de la RDC. Alors donc, la RDC constitue en fait le réservoir qui fournit ces pays. Alors, d'où les taux zéro se justifient de l'autre côté. Mais la CIRG l'a pris parmi les options qui ont été levées à la CIRG, c'est l'harmonisation des législations. Je crois que c'est ça qui devait être la guerre ici, la lutte que nous devons mener pour qu'il y ait un minimum d'harmonie dans nos législations. Si on a des taux zéro partout, tant mieux, si ça peut venir d'une instruction.
Et qu'est-ce qui pèse sur l'exécution de cette recommandation, par exemple l'harmonisation de la législation, parce que c'est quand même tout le monde attend ça.
La souveraineté des États, je crois, parce que les États sont souverains et chacun a son rythme, mais voilà. Nous sommes beaucoup plus intéressés que les autres, comme je l'ai dit, parce que nous sommes les premiers producteurs, donc nous faisons les premiers pas et peut-être que ça va permettre aux autres.
Alors une curiosité avant de repasser à nouveau de l'autre côté du standard, combien de comptoirs aujourd'hui le CGR ou contrôle ou les gens qui passent quand même par vous officiellement, que ce soit au niveau de Kinshasa ou à travers le pays?
Bon, il y a plus ou moins 10 comptoirs qui fonctionnent dans le secteur orifère.
10 comptoirs,
ouais.
Règlement cité du pays, donc bon, j'imagine que d'autres opèrent dans la clandestinité.
La taille, un comptoir ne peut pas opérer dans la clandestinité parce que sinon il ne peut pas exporter. Ou on est clandestin, ou on est comptoir. La taille du pays importe peu parce qu'on peut avoir 2 comptoirs, mais ce qui importe c'est le nombre d'acheteurs qui les comptoirs déploient sur le pays.
Jacques Unita, vous êtes à Roux et plus précisément dans un site minier qui s'appelle Chute, je crois, Chute, hein, ou Chute. Voilà. Jacques, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Jonas.
Voilà, je connais pas
la rivière qu'on appelle Aroux-Chute.
Aroux-Chute.
C'est entre le territoire de Mahagui et le territoire de Aroux.
C'est quand même un site minier, hein?
Oui, Aroux-Chute, voilà. Là, bon, c'est la région minière, oui.
Voilà.
Là, c'est vraiment une région minière.
Alors, oui. Comment ça se passe là-bas, par rapport d'ailleurs à cette décision de réduire à 1% la taxe d'exportation de l'or? Je crois que l'or est exploité au maximum là-bas. Vous pouvez faire un petit commentaire par rapport à la thématique du jour?
Oui, bon, d'abord, je suis très content de savoir que le gouvernement ou l'État congolais pense à réduire la taxe de l'exportation à 1% parce que on a compris que au Congo c'est le principe des taux des taxes qui puis non des taxes. Et puis avec cette politique là des taux des taxes, vous voyez que ça profite maintenant aux étrangers.
Jacques, il faut noter plutôt que ce n'est pas encore décidé au niveau du gouvernement. Après la conférence nationale, c'est parmi des recommandations. Il y a au moins 9 recommandations, si je m'abuse. Parmi ces recommandations, il y a entre autres la demande de participants au gouvernement congolais de réduire à 1% la taxe d'exploitation de l'or. Alors vous pensez qu'il y aura des avantages que le gouvernement pourrait tirer à la population aussi?
Oui, il y aura des avantages. Le gouvernement d'abord va avantager toute la population à pouvoir maintenant taper sur la voie légale. Parce que quand déjà les gens savent qu'on a réduit la taxation, les gens vont s'organiser et passer sur la voie légale. Mais si l'État continue toujours avec les principes là, et beaucoup de taxes, chacun vient percevoir, chacun vient avec sa taxe, vous voyez que ça va décourager la population congolaise qui est fière d'appartenir à la République du Congo. C'est dans l'exemple en Ouganda, où en Ouganda, l'exportation, donc les droits des taxes pour l'exportation à 1% est réduit à 1% dans beaucoup de domaines. Et vous voyez que les Ougandais, nous, ici à la frontière, nous pensons que ce sont des gens qui comprennent la notion de l'État. Mais nous aussi, nous comprenons la notion, nous avons la notion de l'État, mais seulement notre État ne peut pas nous aider à être des bons citoyens. Donc, trop de taxes, plus de taxes. Mmh. Et la raison pour laquelle vous voyez que ce sont les étrangers qui en bénéficient.
Parce
que les étrangers ont beaucoup de moyens plus que nous.
Mmh. Merci beaucoup, Jacques. Steve, vous êtes à Béni. Bonjour, Steve.
bonjour, bonjour à tous les auditeurs là, de Fachus.
Vous avez la parole, votre point de vue, Yves.
Oui, en fait, c'est vraiment une émission, c'est un bon sujet aujourd'hui, parce que ça parle de situation dans laquelle nous vivons ici. Je crois que j'ai même l'occasion un jour d'éviter des raisons minières, de toute façon, ces problèmes-là persistent. Donc, nous, vraiment, je veux seulement signaler que beaucoup de nos minéraux vont à l'étranger, dans les pays frontaliers ici, facilement. Donc, il y a souvent des fraudes, il y a beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est une bonne chose que le ministère à penser à ces domaines-là pour essayer de réduire l'attaque. Mais je crois, avant de réduire, il fallait vraiment faire une étude, parce qu'il faut d'abord voir qu'est-ce qui fait que nos minéraux disent sont pour des éléments à compter pour aller en Ouganda ou cette arrière. Donc il fallait aussi voir si, comme le résultat parlait de créer des coopératives d'artisans, donc nous avons un point à soulever, mais aussi voir donc les comptoirs. Donc il faut chercher des comptoirs qui seront vraiment donc je vais dire quoi, que l'État devait vraiment faire des trucs dans le prix de la scène de l'or, donc qu'on puisse sentir que le prix c'est au tas. Ça aussi, ça expliante aussi de la faute. Donc les gens vont nous en
parler. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fonctionnement. Voilà.
Et c'est bon que.
Voilà, merci beaucoup, Sylvain. On va prendre Simon Tiloulou qui est à Matadi. Simon Tiloulou, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Tiloulou Mayamona, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile du Bas-Congo. En fait, l'or apporte beaucoup dans les budgets des pays qui l'un de leurs minéraux se trouve être l'or. Mais avec nous aujourd'hui, dans certains pays même, ils n'en ont pas, ils ne font qu'importer. Mais l'or importé produit beaucoup dans leurs budgets et ces pays avancent régulièrement dans la gestion de leurs fêtes. Pour la RDC, notre pays. Alors, est-ce que l'or qui est disséminé presque partout, en grande ou en faible quantité, dans notre pays? Mais la grande question dont on se pose souvent, pourquoi les recettes de mines ne sont pas inscrites dans le budget national? Parce que ça aussi, ça cause un problème de la gouvernance. Lorsque ceux qui ont, qui cherchent des recettes de l'or, ne sont pas soumis à une
redevabilité
publique. Ça crée aussi un problème. Alors ma proposition est celle-ci. Étant donné que l'or, nous sommes parmi les grands producteurs de cet or, est-ce qu'on ne peut pas rendre ce secteur exclusif à l'État? Parce que si l'État seul exploite de l'or en multipliant des usines, ou sinon alors de circulaires là où il n'y en a pas beaucoup, ça va nous permettre, de la production jusqu'à la banque. Parce que nous savons quelles sont les sociétés ou quelles sont les sociétés de l'État, l'entreprise de portefeuille, qui gère ça. Et le suivi sera très normal. Cela va nous éviter beaucoup de choses. Et sur le plan social, les exploitants paysans artisanaux tels que vous le dites là, peuvent trouver de l'emploi, peuvent trouver de l'embauche dans ces circulaires parce qu'ils ont déjà la maîtrise, ils savent déjà quoi faire. Vous verrez qu'ils seront engagés, ils seront rémunérés chaque mois. Et nous avons, il y a des domaines qui peuvent être exclusifs à l'État. Donc l'État congolais vient de s'exploiter. Vous verrez que nous aurons moins de fruits que eux. Ce que nous allons consentir, si on peut inscrire ça, cette fois-là, dans les lignes budgétaires, parce que nous, la population, nous nous retrouvons de cette manière-là.
Merci beaucoup.
À la suite.
Merci beaucoup, Simon.
Petit à petit, étendre cette pensée, cette philosophie, dans d'autres mines, parce que notre pays.
Voilà, merci beaucoup, Simon. On va prendre également un autre auditeur qui nous a rejoint, il y a Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour tout le monde, félicitations à tous ceux qui ont parlé.
Voilà, vous avez...
Moi, ma préoccupation, c'est je n'accepte pas ce que l'invité a dit. On a 2 millions de creuseurs. Si on commence à industrialiser, on les mettra où? Je vais donner une information que peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas. Vous savez que notre voisin est le Burundi. J'étais au Burundi pendant plus de 5 ans. Le Burundi exporte des lingots d'or à partir de l'or produit au Congo, vendu là-bas par des artisanaux. Donc, c'est pour dire que si nous avons des usines de transformation ici, on aura même 10 millions de creuseurs qui vont vendre l'or artisanal à nos usines qui vont transformer ça en lingot. Ça, c'est un. Deuxièmement, les écoles techniques d'orfèvres, donc ceux qui auront à traiter, à travailler l'or pour produire des bijoux, etc., peuvent être déjà amorcés. Ce sont des usines. Voilà. Là, on va exporter des bijoux. Le Congolais ne connaît pas ça. C'est pourquoi, quand il a de l'or, il court vite vers l'Indien, le Libanais, etc., parce que ce n'est pas pour lui. C'est pour les autres. Il ne connaît pas aussi la valeur. Voilà ma modeste contribution.
Merci beaucoup, docteur Richard. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Alexis Mikandi. Vous êtes DG des CEC, Centre d'expertise d'extraction de minerais au Congo. Alors, vous êtes avec nous, vous avez suivi cette longue série des auditeurs. D'abord, votre réaction par rapport à leur point de vue.
D'accord. Je voudrais bien prendre quelques-uns de ce point de vue que j'ai retenu. Bon, je commence malheureusement par le dernier, le docteur Richard, qui a parlé de... qui a cru comprendre que nous disions qu'on devrait faire partie de tout le
peuple. Les 2 millions
Non, non, nous n'avons jamais dit ça. Et nous avons dit qu'il y a un programme qui va commencer par coopérer, fédérer le trésor et petit à petit amener vers la petite mine, ce qui est différent. Et je reviens à ce qui a été dit au début. L'exploitation artisanale, telle qu'elle se fait actuellement, ne peut pas amener le développement, ni des créateurs eux-mêmes, ni du pays. Ça, je n'ai même pas besoin qu'on puisse discuter de la question, parce que c'est une évidence. Alors, monsieur Ntiloulou, de
Matadi,
bon, écoutez, je veux bien la révolution qu'il voudrait... bien voir arriver, mais je pense que la RDC est un État qui évolue dans un système international, qui a pris des engagements et qui doit respecter. Aujourd'hui, il a été décidé la libéralisation de l'exploitation minière et je ne pense pas que l'on puisse aujourd'hui ravir les périmètres qui ont été confiés aux entreprises privées pour que l'État s'y mette. Je pense que ça, c'est
révolu.
L'option qui a été levée est que l'État peut être partenaire dans les entreprises, mais l'État, aujourd'hui, est appelé à se contenter soit des dividendes qu'il aura à percevoir de ces entreprises, soit de ses impôts. Alors, autre chose qu'il a soulevé, c'est de voir dans le budget de l'État les recettes. Ah, oui. Bon, je crois que c'est qu'il doit comprendre que c'est un peu comme à la maison, lorsqu'il donne l'argent à madame, c'est madame qui fait la gestion comme il entend. Il en est de même ici. Les entreprises minières payent différents impôts, différentes taxes, et les tout rentrent dans les trésors publics. Alors,
les trésors publics, c'est comme une caisse commune.
Tout à fait.
Tout on verse tout là-dedans.
Et là-dedans, quand la DGRAD perçoit telle recette, c'est la même recette pour tous les secteurs. Alors, est-ce qu'ils veulent ça, mais avec ITIE, je crois que s'il lit les rapports de ITIE, il pourra voir aujourd'hui ce que les entreprises minières payent, et principalement les sociétés aurifères. Donc, je pense qu'il a quand même une partie de réponse. Il a une possibilité pour voir ce que ces entreprises donnent, et en tant qu'opérateurs de la société civile, ils ont le droit de disséminer tout ça pour que la population le sache. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé.
Oui, il y a d'autres qui ont évoqué les cas à Mongualou. Il y a une auditeur qui a évoqué les cas de Harou-Chute. Oui, qui a parlé de l'or qui va chez les voisins, en tout cas, de manière un peu illicite.
Oui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un procès en Suisse où un de nos voisins, en fait, 3 tonnes d'or qui sont passées à une raffinerie ont été décelées comme étant de l'or de la République. Et c'est passé par un de nos voisins. Alors, donc, ce n'est pas une surprise, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a une fraude massive dans les secteurs olifères. Mais eux, en tant que population, ils n'ont pas seulement à se plaindre. Ils n'ont pas seulement à faire des déclarations. Est-ce qu'ils ont déjà pu les dénoncer ceux qui font cela parce qu'ils les connaissent? Ils ne l'ont jamais fait. Alors, nous, là, du service de l'État, on n'est pas des magiciens pour être partout, à tout moment, pour connaître tout le monde. Mais ils doivent faire comme les autres. Mais c'est généralement un tabou dans tout ce coin. On connaît ceux qui font cela, mais personne ne dénonce.
Alexis Mikavi, DG de CSC, merci d'avoir accepté l'invitation de parole aux auditeurs. À très bientôt.
Merci.
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez participé à ces débats. Nous prenons rendez-vous avec vous lundi, où nous allons aborder la question sur l'anniversaire, donc un an après la victoire sur les M23. Quel bilan faire de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Donc prenez déjà rendez-vous avec nous. Prenez votre inscription pour participer à l'émission de lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Capi. Merci à Alain Goy, à Jimmy Feza Bongonda et Jérôme Goy, le plaisir de coordonner et de présenter cette émission. À très bientôt.